La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font. Avec les conseillers
Clélia Prieur
et Séverine Técher. Bonjour Séverine. Ce mois-ci, le podcast sur la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation est thématique et porte sur le droit à congés payés du salarié. Pour en parler, nous recevons Philippe Florès, conseiller à la Chambre sociale de la Cour de cassation, avec lequel nous présenterons les règles relatives au droit à congés payés du salarié, avant de décrypter plusieurs arrêts dont il était rapporteur lors d'une audience thématique et qui ont été rendus le 13 septembre 2023. Bonjour Philippe.
Bonjour.
En France, chaque salarié a droit à un congé payé à la charge de son employeur qui lui permet de s'arrêter de travailler tout en étant rémunéré. Séverine, racontez-nous l'histoire de la mise en place de ce droit.
C'est avec la loi du 20 juin 1936, promulguée après la victoire du Front populaire, que ce droit à congé a été généralisé à tous les salariés, alors que jusque-là, seuls certains secteurs en bénéficiaient. Elle a ainsi prévu le droit à un congé annuel payé de 2 semaines après une année de service continu auprès de l'employeur.
Cette loi fait effectivement partie des droits acquis par les ouvriers en 1936, marqueur important de la construction du droit du travail, avec par exemple le passage à la semaine de 40 heures. Mais on a vu dans le podcast Fabrique sur les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation numéro 20 du mois d'octobre dernier que ce droit est soumis en droit interne, par l'article L3141-3 du Code du travail, à une condition d'acquisition, celle du travail effectif. Cela signifie que seules les périodes effectivement travaillées ouvrent droit à congés payés.
Oui, et sur ce point, le droit français a évolué. Le décret d'application de la loi de 1936 prévoyait dès l'origine que la durée de service continu s'entendait de la période pendant laquelle le salarié était lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution de celui-ci avait été interrompue par des jours de maladie. Autrement dit, cette loi liait le droit à congé à une condition d'ancienneté, mais il était délié de l'exécution d'un temps de travail effectif. Cette condition de travail effectif n'est apparue qu'en 1940, dans le contexte de l'entrée en guerre de la France. Dans le cadre de la législation d'exception prise à l'époque, seule la période de congé maternité, comme cause d'absence indépendante de la volonté du salarié, était assimilée à du temps de travail effectif. Mais assez vite, la situation des salariés malades a fait l'objet de débats. Et c'est ainsi qu'après la Libération, la loi du 11 avril 1946 a assimilé à du travail effectif les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d'une année.
Pour résumer, les différentes modifications législatives et réglementaires intervenues par la suite ont laissé subsister la notion de travail effectif comme condition d'acquisition du droit à congé payé et sont aujourd'hui assimilées à du travail effectif, notamment les périodes de congé de maternité et celle de suspension du contrat pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, mais dans la limite d'une année ininterrompue.
Exactement.
Mais qu'en est-il des salariés malades pour une cause qui n'est pas d'origine professionnelle ?
C'est là que le droit interne se confronte avec le droit de l'Union européenne. Le droit à congés payés est concrétisé par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, dite « temps de travail », laquelle reprenait les règles issues d'une précédente directive de 1993. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit à un congé payé annuel constitue un principe du droit social revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé, de sorte que le droit à congé ne peut pas être subordonné à une condition que la directive ne prévoit pas. La Cour de justice de l'Union européenne souligne que le droit à congé payé a une double finalité. De repos d'une part, de détente et de loisirs d'autre part, qui le distingue du congé maladie qui est accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir.
Pourtant, Séverine, la Cour de justice de l'Union européenne retient qu'en principe, le droit à congé payé est attaché à l'exécution d'une période de travail effectif, de sorte que les salariés en situation de chômage partiel ou de congé parental ne peuvent pas y prétendre.
Certes. Cependant, en s'appuyant sur des standards internationaux, tels que la Convention numéro 132 de l'Organisation internationale du travail, la Cour de justice de l'Union européenne considère que le salarié en situation d'arrêt maladie, qui est absent de son entreprise pour une cause indépendante de sa volonté, acquiert des droits à congés payés. Consciente des frictions existant entre le Code du travail et la directive européenne, la Cour de cassation a posé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur les droits à congés payés d'un salarié en situation d'arrêt maladie. Dans son arrêt Dominguez, du 24 janvier 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé qu'en excluant les salariés malades du droit à congé payé, le Code du travail n'était pas conforme au droit de l'Union.
On comprend bien que pour la Cour de justice de l'Union européenne, le droit à congé payé est attaché à la qualité de travailleur, lequel ne peut pas être privé de ce droit en raison d'événements extérieurs à sa volonté. Cependant, l'exercice de ce droit à congé payé n'est pas sans limite.
Tout à fait, Clélia. La Cour de justice de l'Union européenne a admis que lorsque le salarié est en arrêt de travail pendant une longue période, l'accumulation des droits à congés payés acquis pendant cette période de maladie peut faire perdre une partie de sa pertinence au congé, qui, rappelons-le, est annuel, avec une double finalité de repos et de détente. Dès lors, le congé payé peut s'éteindre une fois expiré un délai qui ne peut être inférieur à 15 mois, à compter de la fin de la période de prise du congé. Toutefois, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation en 2017 et en 2021, et dernièrement par la Cour de justice de l'Union européenne le 9 novembre 2023, il faut que ce délai, qui n'est pas prévu par la directive, soit institué par le droit national. Or, en l'état actuel des choses, le droit interne ne l'a pas prévu.
Alors, ce qui est passionnant, c'est de comprendre le changement de paradigme lié au caractère obligatoire de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui pose les prémices de la solution de nos arrêts du 13 septembre. Mais comment les directives européennes peuvent-elles primer sur le droit interne ?
Rappelons tout d'abord, simplement à nos auditeurs, que le droit du travail français n'évolue pas en autonomie. En application de l'article 88-1 de la Constitution, le respect du droit de l'Union est une exigence constitutionnelle. Les directives européennes ont pour objet de fixer aux États membres des résultats à atteindre tout en leur laissant le choix quant à la forme et aux moyens pour y parvenir. L'État défaillant dans son obligation de transposer en droit interne une directive peut se voir opposer les dispositions inconditionnelles et suffisamment précises de cette directive. C'est ce que l'on appelle l'effet direct vertical.
Toutefois, des limites ont été posées à l'effet direct des directives. Et à ce propos, je me tourne vers Philippe Florès. Racontez-nous, Philippe, ce que veut dire l'absence d'effet direct horizontal de la directive et l'effet direct de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
C'est une question ancienne et complexe, mais capitale en termes d'effectivité des droits. Comme vous l'avez dit, lorsqu'un État est défaillant dans son obligation de mettre en œuvre une directive, il ne peut s'abriter derrière son manquement. Un particulier peut donc lui opposer les dispositions suffisamment claires et précises de la directive pour obtenir la reconnaissance de ses droits. En revanche, dans un litige entre particuliers, aucune des parties n'est responsable du défaut de transposition de la directive. Pour autant, il est nécessaire que le droit de l'Union européenne puisse s'appliquer de façon harmonieuse dans l'ensemble des États membres. Aussi, la Cour de justice de l'Union européenne fait obligation au juge national d'interpréter son droit national afin d'assurer la pleine effectivité de la directive et d'aboutir à une solution conforme à sa finalité. C'est ce qu'a fait la Cour de cassation dans son arrêt du 3 juillet 2012, où, interprétant largement l'article L3141-5 du Code du travail, elle a assimilé un accident de trajet à un accident de travail afin de permettre à la salariée concernée d'acquérir des congés payés. Cette méthode a été reprise le 16 septembre 2021, lorsque la Cour de cassation a utilisé les dispositions d'un accord collectif pour surmonter l'obstacle opposé par le Code du travail afin de permettre à un salarié malade d'obtenir les droits à congés payés prévus par le droit de l'Union européenne.
Mais la méthode de l'interprétation conforme ne permet-elle pas au juge de donner à son droit national un sens contraire à ce qu'il énonce ?
Bien sûr. C'est pourquoi, dans un arrêt de 2013, la Cour de cassation a jugé qu'un salarié en congé maladie, pour une cause autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle, ne pouvait pas se prévaloir de la directive pour obtenir la reconnaissance de congé payé. Dans une telle situation, le salarié lésé n'a d'autre recours que d'engager la responsabilité de l'État en raison de la transposition défectueuse de la directive et de demander des dommages-intérêts en raison des congés payés dont il n'a pu obtenir le paiement par son employeur. Le juge administratif a déjà condamné l'État pour ce motif.
Mais alors, Philippe, pourquoi la Cour de cassation a-t-elle changé de solution avec les arrêts du 13 septembre ?
Si la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence, c'est en raison d'un bouleversement des normes applicables. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a acquis force obligatoire. Or, l'article 31, paragraphe 2 de la Charte reconnaît le droit pour tout travailleur à un congé annuel payé, droit qui est concrétisé et mis en œuvre par la directive de 2003. Et dans les arrêts rendus le 6 novembre 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu qu'un salarié pouvait se prévaloir, dans un litige en droit particulier, de l'effet direct attaché à l'article 31, paragraphe 2 de la Charte, qui consacre le droit à un congé payé annuel.
On comprend qu'en raison de l'effet direct de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le juge national doit en tirer les conséquences en écartant les dispositions nationales contraires. Lorsqu'il n'est pas possible d'interpréter la réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec la directive, la Cour de justice de l'Union européenne dit que le juge national doit dépasser cette hypothèse en laissant cette réglementation nationale inappliquée. Et cela afin de donner un effet direct au droit de l'Union et concrètement, dans les affaires qui nous intéressent aujourd'hui, d'assurer l'effectivité du droit à un congé payé qu'il garantit.
Tout à fait. Avec l'effet direct de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la contrariété du Code du travail ne faisait plus obstacle à la reconnaissance des droits à congé payé qu'un salarié malade tient du droit de l'Union. En effet, en vertu du principe de primauté du droit de l'Union, dont nous avons vu qu'il était également une exigence constitutionnelle, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l'Union, le juge national, chargé d'appliquer dans le cadre de sa compétence les dispositions du droit européen, a l'obligation d'assurer le plein effet de celle-ci en laissant au besoin inappliqué de sa propre autorité toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel. À défaut, comme on l'a dit, le juge national est susceptible d'engager la responsabilité de l'État en raison d'une mise en œuvre défectueuse du droit de l'Union.
On sait que la Cour de cassation, depuis son rapport annuel 2013, a invité le législateur en vain à mettre en conformité au droit de l'Union notre législation nationale sur les congés payés. Mais n'y a-t-il pas eu d'autres signes de l'évolution qui allait venir, Philippe ?
Effectivement. Dans un arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a posé les prémices de la solution et annoncé la méthode à suivre au regard des nouvelles règles applicables. Reprenant l'ensemble des principes issus du droit interne et du droit de l'Union en matière de congés payés, elle a clairement précisé les conditions dans lesquelles le juge du fond doit combiner les règles de droit interne avec celles du droit de l'Union et régler les éventuels conflits entre ces normes lorsque l'on ne peut plus mobiliser la méthode de l'interprétation conforme. Mais dans cet arrêt, l'interprétation des stipulations d'un accord collectif a permis de parvenir à une application du droit français conforme au droit de l'Union, sans avoir à recourir à l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour de cassation a également refusé de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle, soutenant que le congé annuel payé est la contrepartie d'un travail qui engendre une fatigue physique et mentale et nécessite ainsi que le travailleur se repose, puisque cette demande de renvoi était frontalement contraire à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.
Et nous poursuivons la Sociale Le Mag avec les arrêts du 13 septembre dernier qui nous permettent d'illustrer la mise en application des règles du droit de l'Union européenne par la Cour de cassation en s'appuyant sur l'effet direct attaché à l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans les deux premières affaires, la Cour a écarté les dispositions du Code du travail qui empêchaient l'acquisition par les salariés de droits à congés payés pendant les périodes d'arrêt de travail liées à l'état de santé.
Dans ces affaires, deux questions étaient posées. La première était celle de savoir si un salarié, dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un arrêt de travail consécutif à une maladie non professionnelle, pouvait acquérir des droits à congés payés. La seconde question était celle de savoir si le salarié dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle pouvait acquérir des droits à congés payés sans limitation de durée.
Compte tenu de la déconnexion du droit à congés payés de l'exécution d'un travail effectif, opéré par la Cour de justice de l'Union européenne, et en conséquence de l'effet direct reconnu à l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le juge était tenu d'assurer la conformité du droit français avec le droit de l'Union.
Oui, la Cour de cassation a ainsi écarté partiellement l'application des dispositions nationales. D'abord, c'est de l'article L3141-3 du Code du travail, en neutralisant dans la première affaire les dispositions qui lient l'acquisition des congés payés à l'exécution d'un travail effectif, en cas d'arrêt pour maladie non professionnelle, alors que le droit de l'Union rattache l'acquisition de congés payés à la qualité de travailleur. Cette éviction concerne tant les 4 semaines de congés payés, garanties par le droit de l'Union, que la 5e semaine prévue par le droit national, ainsi que les congés payés conventionnels. Ce point montre d'ailleurs les limites de la mission du juge. Il peut écarter les dispositions de droit interne contraires au droit de l'Union. En revanche, il n'a pas le pouvoir de réécrire ou de compléter la loi pour combler les vides ou interrogations qui résultent de l'éviction de dispositions légales.
Oui, et d'ailleurs, selon le Code du travail français, les salariés acquièrent bien 5 semaines contre 4 seulement avec le droit de l'Union.
Oui, mais dès lors que la condition de travail effectif était neutralisée, n'octroyer que les 4 semaines du droit de l'Union aux salariés malades aurait constitué une discrimination en raison de l'état de santé résultant de la décision du juge. Or, l'article L1132-1 du Code du travail prohibe une telle discrimination. C'est donc par une combinaison du droit de l'Union et du droit interne que la Cour de cassation a jugé que les salariés en arrêt de travail pour maladie pouvaient prétendre à l'ensemble des droits à congés prévus par le droit national.
Et qu'a fait la Cour de cassation ? Dans la deuxième affaire,
elle a laissé inappliquées les dispositions de l'article L3141-5 du Code du travail en ce qu'elle limite à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat en cas d'arrêt après accident ou maladie professionnelle pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congés payés, alors qu'il résulte des dispositions supranationales que les périodes au cours desquelles le salarié est placé en arrêt maladie ouvrent droit à congés payés pour la totalité de leur durée.
On se souvient, Philippe, que c'était la solution alternative suggérée dans cette deuxième affaire par l'avocat chargé de la défense des salariés, comme cela a été rappelé dans le podcast Fabrique sur les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation numéro 20 du mois d'octobre dernier. Nos arrêts du 13 septembre, qui constituent une sorte de suspension judiciaire de dispositions législatives, vont avoir des conséquences pratiques, notamment financières, à la charge des employeurs. Comment leur expliquer alors qu'ils respectaient jusqu'à présent la lettre du Code du travail français, qu'ils doivent désormais ne plus l'appliquer ? Ne peut-il y avoir de modulation dans le temps des effets de nos arrêts ?
On a vu ce que le juge doit faire, on va voir ce qu'il ne peut pas faire. S'agissant d'une question de droit européen, qui doit s'appliquer de façon uniforme sur le territoire de l'Union européenne, seule la Cour de justice de l'Union européenne peut, à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de sécurité juridique, accorder une suspension provisoire de l'effet d'éviction exercé par une règle du droit de l'Union à l'égard du droit national contraire à celle-ci. En outre, une telle limitation dans le temps des effets de l'interprétation de ce droit donné par la Cour de justice ne peut être accordée que dans l'arrêt même qui statue sur l'interprétation sollicitée. Il était donc impossible à la Cour de cassation de procéder à une quelconque modulation dans le temps de la jurisprudence adoptée lors des arrêts du 13 septembre 2023.
Oui, et même si le juge de cassation dispose d'une certaine liberté, il ne faut jamais oublier que pour l'essentiel, il se prononce sur les moyens soulevés par les parties. Et ici, en tout état de cause, il ne pouvait pas être saisi d'une demande de modulation dans le temps. Alors Philippe, quelle a été la décision de la Cour de cassation dans la troisième affaire de l'audience thématique, l'affaire qui posait la question du point de départ du délai de prescription d'une demande en paiement de l'indemnité de congé payé ?
Elle a jugé que lorsque l'employeur se prévaut de l'extinction des droits à congé payé en raison de la prescription de 3 ans, le point de départ de ce délai de prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Rappelons ainsi que nous l'avons exposé dans la sociale de MAG numéro 8 de juin 2022, qui décrypte le mécanisme de la prescription triennale des salaires, que les indemnités de congés payés qui ont une nature salariale se voient appliquer la prescription prévue pour les salaires. La périodicité des congés payés étant distincte de celle du paiement du salaire, le point de départ de la prescription est fixé au terme de la période de prise des congés payés. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt rendu le 22 septembre 2022, que l'article 7 de la directive, temps de travail, et l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur au titre d'une période de référence est prescrit à l'issue d'un délai de 3 ans qui commence à courir à la fin de l'année au cours de laquelle ce droit est né, lorsque l'employeur n'a pas effectivement mis le travailleur en mesure d'exercer ce droit.
La Cour de cassation fait donc application de la solution issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et assure ainsi l'effectivité des dispositions issues de la directive européenne, car le juge national ne peut pas faire autrement.
Tout à fait. Pour atteindre son effet utile de repos et de détente, le droit à congé doit être exercé en nature. L'employeur, qui est le débiteur, doit mettre le salarié en mesure d'exercer le congé payé. Ce n'est qu'une fois ces obligations satisfaites, et en cas d'abstention du salarié, que l'employeur pourra se prévaloir de la prescription. Le point de départ du délai de prescription est défini au regard des conditions d'exécution du contrat de travail, l'effectivité du droit à congé payé et des règles de santé et de sécurité sur lesquelles il repose en dépend. L'arrêt rendu tout récemment, le 9 novembre dernier, sur renvoi préjudiciel par la Cour de justice de l'Union européenne, valide tout le raisonnement de la Cour de cassation.
Nous allons clore ce sujet passionnant, ce dont témoignent d'ailleurs les nombreuses réactions suscitées. C'est la fin de notre podcast. Les arrêts du 13 septembre 2023 peuvent être retrouvés sur le site de la Cour de cassation avec les numéros de pourvoi 22 17 340, 22 17 638 et 22 10 529, ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale numéro 21 de septembre-octobre 2023. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans ce podcast thématique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci Séverine, merci Philippe.
À bientôt
Clélia.